Ce que vous entendez, je vous le disais, est un poème qui a été écrit par une jeune fille qui reproche à son fiancé de ne pas son manque d'ardeur pour réunir l'argent nécessaire à son mariage. Il est interprété par un homme, Youssouf Ksan, et 6 autres hommes qui l'accompagnent par 2 tambours. Et qui est enregistré donc dans la région où vivent les Pashtuns, cette ethnie qui vit surtout dans le versant sud de l'Hindoukouche oriental, à l'intérieur d'un rectangle qui est limité par des rivières, entre autres la rivière Kaboul. Leur langue est indo-européenne et elle présente l'intérêt de se trouver justement à la frontière de 2 groupes linguistiques qui ressemblent un petit peu au nôtre mais qui n'est pas écrite. Alors, les Pashtuns sont des agriculteurs éleveurs sédentaires qui forment une communauté d'environ 100 000 personnes et qui vivent dans les vallées de moyenne altitude entre 1400 et 2500 mètres donc de cette chaîne de l'Hindoukouche. Alors, comment se fait-il que ce poème soit écrit par une femme et pourtant soit chanté par des hommes? Ça, c'est pas bien compliqué à comprendre parce que vous verrez que la condition féminine dans la communauté Pashtun est particulièrement dure. Mais avant que je vous parle de cela, j'aimerais juste vous dire qu'effectivement, ces poèmes sont normalement chantés par les femmes. Elles sont composées, il y a une sorte, c'est des poèmes très très courts que l'on répète, dont on répète souvent la formule, et que les femmes chantent entre elles, quand elles font des fêtes entre elles le soir, ou quand elles se retrouvent au coin du feu, toujours bien sûr, entre elles. Je sais tout ceci après avoir lu un livre absolument magnifique qui s'appelle « Le suicide et le chant » et qui raconte cette poésie populaire composée et chantée par les femmes Pashtunes. Et ce livre magnifique a été écrit par Saïd Bahodin Majrou qui, hélas, a été assassiné au Pakistan. Dans la communauté Pashtun, je vous le disais, c'est une structure très tribale, très clanique, et la condition féminine est particulièrement dure. Le groupement de guerriers, dont seuls les adultes mâles appartenant à la tribu et les sous-clans sont membres de plein droit, eh bien, cette société se trouve entièrement régie par des valeurs masculines, avec pour loi de base le code de l'honneur. Alors dans un tel environnement, virilisé à l'extrême, pieux, fanatique à sa façon, on peut imaginer la double pression physique et morale que subissent les femmes. Alors physiquement, comme beaucoup de femmes dans le monde, elles supportent la charge des tâches domestiques les plus épuisantes. Alors si les hommes échangent des coups de feu de temps en temps et vont au champ épisodiquement, la plus grande partie de leur vie se passe plutôt à la mosquée ou sur les places du village, là où se discutent les affaires de la politique tribale. La femme, elle, travaille dès avant l'aube jusque tard dans la nuit et toute l'année durant. Et en plus de l'aide qu'elle apporte pendant les récoltes saisonnières, elle assume un labeur régulier, permanent, sans repos, sans congé. Et au moins 2 fois par jour, matin et soir, elle va pour la corvée de l'eau, à la source ou à la rivière, parcourant parfois des distances très importantes, transportant sur la tête ou sous le bras des récipients très lourds. Elle s'occupe bien sûr des enfants, qui sont très nombreux, de la cuisine, du bétail. Elle moue aussi le grain, elle prépare la farine, cuit le pain, file la laine, bref, encore plein d'autres choses. Et ces femmes, bien sûr, n'ont pas le droit de se plaindre de ce travail d'esclave. Mais pourtant, dans ces poèmes qu'elles écrivent, parfois, elles mentionnent le travail qu'elles font en lui donnant la force de la poésie, en parlant par exemple des doigts de velours avec lesquels se ramassent les épis de blé ou bien la cruche trop lourde qui lui occasionne des douleurs dans le dos. En fait, ce fait qui l'a fait le plus souffrir, c'est un peu le côté moral de son asservissement. Elle se sent elle-même bien sûr réprimée, bafouée, et tout ça maintenu au second rang. Et elle le raconte un petit peu dans ses chansons, dans ses poèmes qu'elle compose. Il y a, si je vous disais que le livre s'appelle « Le suicide et le chant », c'est que face à cet état de choses, à ce carcan ancestral, eh bien, c'est la soumission complète de la femme apparemment, elle fait son travail comme une horloge, elle accepte, elle subit, etc. Mais pourtant si on regarde un peu plus près, il s'avère qu'au très secret d'elle-même, eh bien, la femme Pashtun s'indigne, conteste, entretient cette révolte, cette protestation enfouie jour après jour au cœur d'elle-même. Et elle ne livre finalement que 2 témoignages, son chant, les poèmes dont je vous parlais, et son suicide. Et bien du suicide, on sait que le code d'honneur tribal le considère comme une lâcheté, que l'islam l'interdit. Jamais un homme pashtoun ne s'y résout. Aussi en supprimant de cette façon honni, eh bien la femme proclame tragiquement sa haine de la loi communautaire. Même le choix des moyens de mort souligne le sens iconoclaste du sacrifice. Celui-ci ne s'accomplit que par empoisonnement, une noyade volontaire. Il n'y a ni balle ni raie dans le cœur, ni pendaison. Mais c'est avec le fusil que, c'est avec le fusil que l'homme chasse et guerroie, et c'est avec la corde qu'il attache le bétail et lie le bois et tire les lourdes charges. Alors si par son suicide la femme pachtoune impose un acte socialement irrécupérable, en fait elle développe par son chant un défi de nature un peu identique qui peut lui aussi à sa manière se révéler fatal. Car inlassablement, ses mélodies exaltent trois thèmes au goût de sang: l'amour, l'honneur, la mort. Le premier poème que vous avez entendu, je vous le disais, évoque une jeune fille qui trouve que son compagnon ne se donne pas beaucoup de peine pour réunir l'argent nécessaire à leur mariage. Il y a aussi ce poème qui dit que c'est un jeune homme, cette fois-ci, qui l'écrit en s'adressant à sa jeune femme. « Tu ne vas pas vivre longtemps encore avec ce vieux Grigou, je t'en prie, viens me rejoindre. » De qui parle-t-on lorsque l'on parle de ce vieux Grigou? Eh bien, en l'occurrence, c'est que lors des mariages, et bien souvent, bien évidemment, les jeunes filles sont l'objet d'échanges et elles sont mariées parfois à des vieux, mais vraiment des vieux, ou bien alors au contraire, des tout jeunes, des tout petits. Son mari, pour la jeune femme, est souvent un enfant. Alors c'est ces deux extrêmes, un mari, un vieillard, et ce compagnon qu'on lui impose. Et bien souvent dans ses poèmes, elle les appelle les petits affreux, ou bien le vieux Grigou, tel que le dit ce jeune homme. Alors je vais vous en lire quelques-uns, vous verrez, ils sont très très courts. C'est un petit peu des phrases qui nous permettent de voir ce que ressentent les femmes dans ces moments-là. La femme évoque ainsi ses deux mésalliances avec le vieillard ou avec l'enfant. Le destin m'a donné pour époux un enfant que j'élève. Mais Dieu, quand il sera grand et fort, moi, je serai vieille et faible. Jean cruel, vous voyez qu'un vieillard m'entraîne vers sa couche et demandez pourquoi je pleure et m'arrache les cheveux. Oh mon Dieu, tu m'envoies de nouveau la nuit sombre et de nouveau je tremble de la tête aux pieds car je dois monter dans le lit que je hais. Ô Seigneur, de nouveau elle est là ta nuit longue et triste, et de nouveau il est là mon petit affreux, et il dort. Mais parfois la femme pachtoune exprime, entre femmes bien sûr, son amour et elle le crie si haut qu'elle impose évidemment un peu le scandale. J'aime, j'aime, je ne le cache pas, je ne le nie pas, même si l'on m'arrache au couteau pour cela tous mes grains de beauté. Hier soir, j'étais près de mon amant, ô veillée d'amour qui ne reviendra plus. Comme un grelot avec tous mes bijoux, je tintais dans ses bras jusqu'au fond de la nuit. Pose ta bouche sur la mienne, mais laisse libre ma langue pour te parler d'amour. Ma bouche est à toi, dévore-la, ne crains rien, elle n'est pas d'un sucre qui risque de se dissoudre. « Comment es-tu venu sous la pleine lune, toi aussi haut qu'un platane? Où vais-je te cacher? Viens, mon amour, que je t'enlace. Je suis le lierre fragile que l'automne bientôt emportera. Dieu fasse qu'il soit invité chez nous, je lui ferai goûter le bout de mes lèvres roses. Si tu ne savais pas aimer, pourquoi as-tu éveillé mon cœur endormi? Vous pouvez encore découvrir de ces nombreux poèmes chantés, poésie populaire des femmes pachtounes, je vous le répète, dans ce livre magnifique « Le suicide et le chant » écrit par Saïd Bahoddin Majrou, traduit du pachtoun et adapté bien sûr par un français, André Velter, et par l'auteur lui-même qui parlait français, c'est Connaissance de aux éditions Connaissances de l'Orient chez Gallimard. Et vous découvrirez un visage fascinant qui émerge de ces textes où la femme chante, parle d'elle-même, mais de l'homme aussi, du monde qui l'entoure. Un visage fier, impitoyable et révolté. Alors je vous rappelle cette alerte pour les femmes afghanes, de nombreuses adresses auxquelles vous pouvez écrire votre réprobation et votre demande des respects des droits humains pour les femmes afghanes, ces droits les plus minimums comme l'accès aux femmes et aux filles, à l'éducation, comme le droit à la sécurité, comme le droit à l'emploi à l'extérieur de la maison, comme le droit à la santé. Si vous n'avez pas eu la possibilité de noter les différentes adresses que je vous ai données, eh bien n'hésitez pas à nous appeler au 04 50 40 51 41. Je vous répète, 04 50 40 51 41. 059 si vous appelez depuis la Suisse voisine, nous vous les répéterons. Et eh bien Viviane est arrivée, Viviane Radio Pleine Lune, les informels que vous entendrez tout bientôt dans quelques minutes. Et avec elle, eh bien, est arrivée Toto Lamompésine, cette femme que vous pourrez entendre dans le cadre du Festival des Voix de Femmes le samedi 22 novembre à 20h30. Toto Lamompésine qui nous chante des chants traditionnels afro-colombiens. Dans quelques instants, les informels de Radio Pleine Lune, mais pour l'instant, encore quelques instants de ce remue-ménage en compagnie de Toto Lamompésine.
¡Hola! se ha vuelto gris. Si tú no regresas más, mi llanto es solo tristeza. Al saber que ya no estás. Ah, 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 ah. Aquellas melodías que las aves te cantaban se han vuelto tristes, frías al saber que ya no estabas. Te saludaban, perdieron sus colores al saber que ya no estabas. Aquellas melodías que las aves te cantaban se han vuelto tristes, frías al saber que ya no estabas. Las flores que contentas cada día te saludaban, perdieron sus colores al saber que ya no estabas. Mi cielo se ha vuelto gris, si tú no regresas más, mi llanto es solo tristeza, al saber que ya no estás.
marino sasa, moja en asiento de chicharrón, mi porro me sabe a bolle morongo, mi porro me sabe a bolle morongo, y es mi gran celele, mi amiguito Soto ya ve, y es mi gran celele, mi amiguito Soto ya ve.
Voilà, remue-ménage pour aujourd'hui, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine et tout de suite dans vos oreilles, c'est la pleine lune qui grimpe malgré la pluie, malgré le froid. Le blanc de la neige, le blanc de la lune, ça vous donne les informels dans quelques secondes.
D'argent, ce sera tout à fait comme la radio.
Bonsoir, Radio Pleine Lune 93.8 MHz, onde femme Radio Zone. Comme tous les mercredis à partir de 18h30, c'est la pleine lune dans vos oreilles sur 93.8 MHz. Je vous rappelle notre numéro de téléphone, le 059 depuis la Suisse, je répète, ça me trouble maintenant qu'il faut rajouter tellement de chiffres avant, etc., je perds le fil. 450-40-51-41-059 depuis la Suisse voisine. Dans quelques instants, les informels, c'est les nouvelles sur la pleine lune, et puis ensuite Marjolaine vous ouvre son cœur.